Eh bien, mes amis, j'espère une fois encore que vous êtes tous bien installés aussi confortablement que possible. Le Seigneur n'est pas contre cela. Et puis, si vous êtes d'accord, on fera de nouveau oignon Jean barbecue à la moitié. Vous pourrez vous mettre à l'ombre et ceux qui veulent être un peu rôtis de l'autre côté changeront de place, hein? On travaille ensemble. Est-ce que vous avez lu le chapitre 3 avant de venir? Bien. Alors on va le relire. Cette fois entièrement. Et puis vous vous pénétrez déjà dans une attention vraiment captivée par le Seigneur. Et vous vous dites, qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin du 8 juillet? Tiens, c'est l'anniversaire de la naissance de ma mère, qui est auprès du Seigneur. 8 juillet 1990. Celle qui m'a donné le jour. Et qui a demandé avec mon père avant ma naissance que s'il leur donnait un fils, il désirait qu'il lui soit consacré non seulement pour un groupe, mais pour tous les hommes. Je dis quelquefois, il ne savait pas ce qu'il demandait, et les souffrances que cela allait leur apporter à eux-mêmes et à moi-même. Parce que c'est plus facile de travailler pour un groupe, pour un milieu, que pour tous les hommes. Mais mon Sauveur, il est venu pour tous les hommes. Indépendamment de leur état et de leur religion et de la société dans laquelle ils vivaient. 8 juillet, oui. Eh bien, nous sommes le 8 juillet. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a à vous dire, non pas 8 juillet 1990, 1890, mais le 8 juillet 1987. Seigneur notre Dieu, captive nos pensées, saisis-nous par ton esprit, possède-nous entièrement, fais-nous disparaître, pour que nous n'ayons plus devant les yeux que Jésus au milieu de nous, nous enseignant par l'un des siens les vérités éternelles dont nous avons besoin pour le temps actuel. Exauce-nous, ô Père, pour ta seule gloire et l'honneur de ton Fils, et par le renouvellement tout puissant de ton esprit. Amen. Alors, nous continuons donc notre thème, les œuvres de la foi, et ce matin, nous avons le chapitre 3 de cet épître catholique, c'est-à-dire qui s'adresse à tous les hommes, et qui a été écrit par Jacques, appelé un frère du Seigneur, un proche parent du Seigneur, sinon son frère. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Une autre traduction dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de docteurs. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Et si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bris. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La gêne, c'est ce qui représente l'enfer, et plus exactement, la gêne, c'était le nom d'une vallée où l'on brûlait à Jérusalem les immondices, la vallée de la gêne. Et on employait cette expression parce que là, il y avait toujours du feu, parce qu'on brûlait les immondices de la ville. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et les malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, sensuelle. Et pire, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Notez déjà les 7 caractères de la sagesse. Elle est pure. Ensuite, pacifique. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix ou qui procurent la paix. Que Dieu bénisse sa sainte parole et que nous soyons ce matin ensemble sanctifiés par elle. Il y a encore un banc ici que j'aimerais qu'on mette peut-être là-bas pour que nos amis puissent s'asseoir. Ou bien alors que nos amis viennent ici. Mais je ne voudrais pas qu'ils soient obligés d'être debout pendant toute la réunion, alors que vous avez une longue journée. À moins qu'il y en a qui se croient trop petits et qui veulent grandir. À quoi ça va ?
Excuse-moi, non, pardon.
Attends. Vous voyez, avec les meilleures intentions du monde, on fait des erreurs. C'était pourtant sincère. Mais sincérité n'est pas synonyme de vérité, vous savez. Alors, si vous êtes d'accord, c'est ce soir qu'on va réserver l'heure où vous pourrez exprimer ce qui vous a touché dans votre première lecture personnelle, puisque vous m'avez dit avoir lu le chapitre avant de venir, et puis ce que le Seigneur vous a montré dans cette seconde lecture que vous venez de suivre dans vos Bibles et d'écouter par le son de ma voix. Et c'est toujours Jacques qui parle et qui nous signale un nouveau danger et qui est très grave au sein de la chrétienté. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous a montré comme danger? Eh bien, de dire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas réellement une foi authentique. Dire qu'on a la foi, c'est une chose. Mais si on dit qu'on a la foi, cette foi doit avoir sa manifestation par des œuvres. Il ne suffit pas que vous disiez que vous avez la foi pour que je sois rassuré. Il faut que je voie les œuvres de votre foi, parce que Jacques nous résume tout ce chapitre qu'on a lu hier. Il dit ceci au verset 26e, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre, elle est morte. Alors je regrette, vous n'êtes qu'un cadavre. » Et vous savez, c'est pas réjouissant de voir des cadavres marcher. C'est un peu effrayant. Un cortège de cadavres sortant du cimetière et qui marche. Eh bien oui, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit de ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. Ils marchent, mais ils sont morts. Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez, un cortège de cadavres. Il marche, mais s'il marche, c'est par quelle énergie et par quelle puissance? Lisez les versets qui suivent ce verset premier du chapitre 2 des Éphésiens. Il marche par la puissance de qui? De Satan lui-même. Ils sont sous l'énergie de Satan. Et c'est quelque chose de terrible. Ils sont sous la domination de celui qui est appelé le prince de ce monde, le fils de la rébellion. Je lis cela pour que vous soyez bien sûr que je n'invente rien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est donc des morts qui marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est l'esprit de Satan qui anime tant d'hommes et tant de femmes qui marchent dans ce monde, oui, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Et alors, que sont-ils? Jésus l'a dit à des gens religieux même, vous êtes des fils du diable. Et vous commettez les œuvres du diable. L'injustice, le crime, tous les péchés que vous pouvez aligner sont les œuvres de Satan. Alors, ne me dites pas que vous avez la foi si vous vivez dans ces œuvres mauvaises. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas y tomber si nous ne veillons pas, parce que nous avons toujours la même nature, mais ce ne serait qu'un accident. Et alors, on se juge de cela, on confesse son péché, on l'abandonne et on se laisse saisir par le Seigneur. Tant que nous marchons dans ce monde, il peut y avoir des chutes. Mais comme le dit le prophète Jérémie, est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève point, chapitre 8, est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Nous sommes toujours capables de nous détourner, nous sommes toujours capables de tomber, mais quand on a connu le bon berger, le berger cherche non seulement la brebis perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée, mais il prend soin de la brebis qu'il a sauvée et qui pourrait encore s'égarer. L'égarer, je la ramènerai. On peut s'égarer tout en étant sauvé. Et puis, même dans un tel chemin, on peut être blessé. Eh bien, la brebis blessée, dit le Seigneur, je la panserai et puis on peut être presque à bout, malade, incapable d'avancer. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? La malade, je la fortifierai. Laissez-vous prendre par les mains du bon berger. C'est lui qui va vous porter et vous ramener à la bergerie. C'est cela le vrai berger. Mais hélas, dans le chapitre où il se présente ainsi comme étant le bon berger, le vrai berger, qui prend lui-même soin de ses brebis, c'est le chapitre 34 d'Ézéchiel, il nous montre tous ceux qui, en son nom, prétendent être des bergers, et qui sont de mauvais bergers, qui tondent les brebis, au lieu de soigner les brebis, qui font trafic avec les brebis, qui s'enrichissent avec la laine des brebis, alors que le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis, tellement il les aime. Et quand il a pu en ramener une dans le droit chemin, eh bien, son cœur est heureux. Et il est dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, mes amis, le mal du siècle, c'est la profession chrétienne sans la vie. On prétend qu'on a la foi, qu'on est chrétien, mais au fond, on n'a pas la vie de Dieu en nous. C'est ce que Jésus disait. Vous n'avez pas la vie en vous, malgré le baptême, malgré tout cela. Et quand je dis baptême, je dis bien aussi le baptême d'adulte que le baptême des enfants. Parce que on peut très bien avoir été baptisé adulte sans que ça ait changé quelque chose. C'est le cœur qui doit avoir été atteint, qui doit avoir été touché. Ce sont nos affections qui doivent avoir été captivées, non pas par un idéal que l'on suit un moment, puis on se décourage, mais par une personne qui devient vraiment le centre de notre vie. Parce qu'on a renoncé à soi-même, ce moi qui était un centre négatif. Eh bien, ce qui me libère, c'est d'avoir pu renoncer à moi-même pour accepter un autre centre pour ma vie, Jésus, centre positif. Alors, je veux croire qu'ici, personne ne vit dans l'illusion et que chacun de vous est en relation personnelle avec le Seigneur. Ça, c'est une des grandes plaies de la chrétienté, parce que c'est la confusion, les vierges sages et les vierges folles. De loin, elles ont toutes la même apparence, le même costume, on porte le nom de chrétien, mais dans les lampes des unes, il y a de l'huile, dans les lampes des autres, il n'y a pas d'huile. Et voilà, au milieu de la nuit, tout à coup, la voix du Seigneur se fait entendre, et seules celles qui ont de l'huile peuvent entrer dans la salle des noces. Et il est trop tard pour toutes les autres qui avaient toutes les apparences, mais qui n'avaient pas l'essentiel, l'huile dans les lampes, qui est le Saint-Esprit, qui est la vie en chacun de nous. Mais vous voyez, selon les apparences, il n'y a pas tellement de différence entre les vierges. Elles s'étaient toutes endormies. Elles s'étaient toutes endormies. Et bien souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les vrais chrétiens et les gens du monde? On a l'air, nous aussi, de dormir. Et qu'est-ce qui peut nous réveiller? C'est la parole de Dieu. Et ce que nous devons vous prêcher, ce ne sont pas nos idées sur quelque chose, nos interprétations, mais la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Quand vous voyez des gens couchés dans la plaine, il n'y a pas de différence, ils semblent tous peut-être morts, mais si vous voulez savoir lesquels sont seulement endormis, eh bien, vous appelez, et ceux qui ont la vie se réveillent. Eh bien, que le Seigneur permette, même si nous nous sommes endormis spirituellement dans nos milieux, dans les semaines passées ou dans les mois écoulés, qu'il permette que ce camp soit un camp de réveil. Et c'est pas moi qui peux vous réveiller, c'est la parole de Dieu qui vous est annoncée et qui doit atteindre vos cœurs, vos consciences et aussi votre intelligence. Parce que je ne pense pas m'adresser à des gens stupides, je pense m'adresser à des personnes raisonnables qui entendront la voix d'un plus grand que moi derrière toutes mes paroles, même si je n'arrive qu'à vous en faire entendre qu'un murmure, même si vous ne voyez que quelques étincelles de ce feu qui brûle et que Moïse a contemplé. Le chapitre 3 nous montre un deuxième danger. C'est qu'il y a dans la chrétienté aujourd'hui une foule de gens qui veulent être des docteurs, qui veulent enseigner les autres. Et c'est quelque chose de terrible. Et j'espère que vous aurez du discernement spirituel. C'est presque toujours à notre corps défendant que nous acceptons une invitation pour ouvrir la bouche et parler à des âmes qui nous demandent de leur enseigner la parole. C'est en tremblant qu'on accomplit cette tâche. Et quand j'ai dit il y a quelques années à un serviteur de Dieu que je ne m'habituais pas à prêcher l'évangile, que des fois ma chemise était déjà mouillée avant que j'ai commencé, il s'est moqué de moi en me disant « Tu nous fais rigoler, toi qui as l'habitude. Tu ne passes plus par ces moments-là. » Bien oui, mes amis, j'y passe encore par ces moments-là, parce que je suis conscient du prix que vous avez pour le cœur de Dieu et que, selon mes paroles, vous pouvez être ou attiré vers le Seigneur et l'aimer davantage, ou alors vous dire, « Bon, oui, il dit ces choses, mais au fond, ce sont des paroles, c'est un sermon de plus. C'est pourquoi j'aime mieux me laisser conduire par le Saint-Esprit que de venir avec du tout plaqué que j'aurais bien structuré dans mon cabinet pour vous faire un beau sermon qui se tienne avec un point, deux points, trois points. Si j'ai 10 points à vous dire, je vous les dirai les 10. Puis si je n'ai qu'un point à dire parce que le Seigneur ne veut toucher qu'une parole, eh bien je n'en dirai qu'une. Et cela suffira. Ce n'est pas notre construction qui compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas, mais on se prépare à genoux, on se prépare dans la prière, on se prépare dans le face-à-face avec Dieu. Avant de voir la face des hommes, il faut que j'aie vu la face de mon Seigneur. Et alors, je pourrai ouvrir la bouche. Mais ces gens qui viennent vous dire, vous savez, moi j'aimerais bien venir dans votre assemblée, j'ai des messages pour vous. Attention, mes bien-aimés, ce n'est pas le Seigneur qui les envoie, c'est eux-mêmes qui s'envoient et qui veulent vous imposer leurs idées, leurs doctrines. Et ces gens qui viendront à vous de cette manière, vous pouvez être certain qu'ils mettront le trouble dans votre assemblée. Ils mettront la confusion dans vos âmes. ils se prétendent docteurs, ils veulent enseigner, et ils auraient besoin eux-mêmes d'être enseignés et corrigés. Parce que voyez-vous, à travers toute l'écriture, je vois que les prophètes sont des gens qui ont été saisis par Dieu et contraints par lui d'apporter la parole. Par eux-mêmes, ils ne l'auraient pas fait. Ils se sentaient trop faibles, ils se sentaient trop minables, trop misérables. Mais quand ils ont été saisis, comme Agée, il est dit, Agée, le messager de l'Éternel, parla par le message de l'Éternel. En quelque sorte, je dirais, le message était dans le messager et le messager dans le message. Ça ne faisait qu'un tout. Comme Jésus, sa parole était sa vie et sa vie était sa parole. Doctrine et vie ne sont pas séparées en Jésus. Alors prenez bien garde à cela, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'était une tendance chez les Juifs qui connaissaient les Écritures. Chacun voulait être docteur. Alors, il s'était converti au christianisme, mais il gardait cette ancienne tendance, parce que dans la synagogue juive, chacun pouvait prendre la parole. Alors, au fond, un peu dans nos communautés aussi, où chacun, puisqu'on prétend qu'on a la liberté de l'esprit, hein, chacun voudrait peut-être prendre la parole et se croit avoir le don d'enseigner, le don de pasteur, le don de docteur, etc. Ou alors parce qu'ils ont fait des études. Mais mes amis, c'est pas les études qui font les dons. On peut faire des études, c'est vrai, mais ça ne fait pas nécessairement un docteur, ça ne fait pas nécessairement un pasteur, ça ne fait pas nécessairement un évangéliste. Ce sont des ministères qui viennent d'en haut, qui sont donnés par Dieu pour l'édification du corps de Christ. Les ministères, tels que nous les voyons dans l'Écriture, ce sont des hommes, des dons que Dieu fait à son Église. Il y a les dons de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit, c'est autre chose que tout membre du corps de Christ peut avoir, l'un a tel don, l'autre tel autre, mais en tout cas, le fruit de l'esprit devrait être chez tous. Quant au ministère, c'est autre chose. Un ministère, c'est une chose que Dieu a confiée à un homme. Il donne cet homme comme étant son ministre, ou pour évangéliser, ou pour édifier, ou pour s'occuper d'un troupeau, mais vous voyez qu'il a ce don pastoral. Il sait écouter, il sait visiter les âmes, il sait les comprendre, se mettre dans leur peau, et il les soigne. Il soigne les brebis. C'est cela un pasteur. Et puis, il y a le docteur, alors, qui a reçu une connaissance approfondie de la parole, et qui cherche à en faire bénéficier les autres. Mais un docteur, c'est pas un homme qui parle au-dessus de votre tête. Parce qu'il a compris que plus on emploie un langage simple, plus on édifiera les âmes. Parce que si je vous fais un beau discours, vous dites, oh, c'est merveilleux. Puis quand on vous dit, qu'est-ce qu'il vous a dit, le prédicateur? C'était tellement profond, j'ai rien compris. Alors, c'est bien utile à l'Église, hein? Un ministère de ce genre. Des ministères tellement profonds qu'on n'y comprend rien. Ah oui, mais c'était pour les intellectuels. Les intellectuels. Ça, c'est faire acception de personne. Une assemblée d'universitaires. C'est là que j'ai souvent lutté dans les groupes bibliques universitaires dans les premiers temps, où l'on ne voulait absolument pas d'autres personnes que ceux qui avaient des grades universitaires, que j'ai essayé de leur dire, mais vous vous privez de grandes choses. Et au camp italien où on frappait 200, 300, il y a de tout, il y a des universitaires, puis il y a des paysans. Et voyez-vous, c'est cela la richesse du corps de Christ. Parce que les manuels apportent quelque chose aux intellectuels, et les intellectuels, s'ils sont assez humbles, ils se font aussi aux manuels, et ils leur apportent quelque chose. Et c'est cela qui est tellement merveilleux. Mais maintenant, on spécialise, on est tous des spécialistes, et on s'appauvrit. Il y a appauvrissement dans l'Église du Christ par la spécialisation. Heureusement que ma femme n'est pas là. Elle est spécialiste. Mais Je ne dis pas qu'elle est appauvrie par cela, mais je vous dis qu'il y a un certain danger. Alors, on ne fait plus que ça, toujours ça, 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 ça. Alors qu'il faut être peut-être médecin de campagne, hein, où il faut pouvoir opérer n'importe où, même sur une table de cuisine. Et c'est cela, justement, que l'on voit dans la mission. Alors, qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs, ou un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous voyez, il n'est pas dit qu'ils sont envoyés pour enseigner, mais qui se mettent, vous avez bien compris, hein, qui se mettent à enseigner, qui se donnent l'autorité pour enseigner. Oui, il fait la même chose, si tu veux. Il veut être docteur, mais ça vient d'eux. Tu comprends? C'est eux qui choisissent. Or, c'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis pour que nous allions et que nous portions du fruit. Et encore une fois, je vous le signale, faites attention à cette tendance. Tiens, vous aviez tel don là, naturel dans le monde, et bien maintenant que vous êtes converti, vous avez employé ce don-là pour le Seigneur. Comme si le Seigneur allait sublimer vos dons. C'est pas avec l'enseignement de Gamaliel que Saul de Tarse a enseigné des multitudes. Il dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai annoncé. Il a eu un contact direct avec le Seigneur. Pourtant, il n'avait pas été à l'école du Seigneur sur la terre, comme les disciples. Mais il dit, c'est pas les disciples de Jérusalem qui m'ont enseigné ce que je vous dis. Je l'ai reçu du Seigneur. Et voilà, je vous l'enseigne. C'est pas l'enseignement de Paul, c'est l'enseignement du Seigneur dans la gloire, mais qui est le même que l'enseignement que les apôtres ont reçu quand ils étaient avec lui, allant de lieu en lieu lorsqu'ils faisaient du bien. Et alors, il dit pourquoi il faut faire attention à ne pas vouloir se mettre nous-mêmes en avant, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. On en a parlé au sujet de Moïse. Moïse, qui avait été choisi par Dieu, qui avait une très grande responsabilité et qui en était conscient, et qui s'est tenu devant Dieu, il est dit que si Dieu n'a pas détruit Israël dans le désert, c'est à cause de Moïse, son élu, qui se tenait devant Dieu jour et nuit, priant pour que Dieu ne détruisisse pas ce peuple. Parce qu'un jour, Dieu lui a dit, écoute, j'en ai assez de ce peuple. Je vais le détruire et je ferai de toi une grande nation. Qu'a répondu Moïse? Mon Seigneur. Enlève-moi plutôt de ton livre, efface-moi de ton livre, mais sauve le peuple. Hein, c'est ça le vrai salut. Moi, je ne veux pas être sauvé puis que les autres soient perdus. Je préférerais être perdu, si ça se pouvait, pour que les autres soient sauvés. Et si Moïse a parlé ainsi, je vois l'apôtre Paul parler de la même manière quant aux Juifs qui le persécutaient. Et il dit, j'ai dans mon cœur une douleur constante et j'ai même souhaité d'être rejeté par Christ, d'être anathème pour mes frères les Juifs selon la chair, afin qu'eux soient sauvés. Voilà des hommes que vous pouvez suivre et qui ont la pensée de Dieu et qui suivent le Seigneur qui a donné sa vie pour ses brebis. Alors, nous serons jugés plus sévèrement si nous enseignons, de sorte que ça devrait nous faire trembler. Nous bronchons tous de plusieurs manières, et cela c'est vrai. Hein. Vous pouvez prendre tous les hommes de Dieu dans les Écritures, et puis vous pouvez voir leurs défauts aussi. Parce que l'Écriture est tellement vraie qu'elle ne nous a pas montré seulement les qualités de ces hommes, mais l'Écriture nous a montré leurs faiblesses. Tandis que quand vous lisez une biographie, écrite sur quelqu'un, je vous ai un peu écrasé, parce que souvent le biographe, il ne met que les choses heureuses et belles, et quand on lit ses biographies, on se dit, mais moi, c'est pas pour moi, moi je suis écrasé, la lecture de bien des biographies nous écrase, tandis que quand vous lisez les biographies faites par Dieu, par les hommes de Dieu, comme Abraham, on voit les défauts d'Abraham, on voit les manquements d'Abraham, mais on voit la grâce de Dieu au travers d'une vie semblable à celle d'un Jacob, un Dieu qui nous soutient, qui nous corrige, qui a de la patience avec nous, qui nous reprend. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Je ne vais pas vous faire la liste de tous ceux qui ont bronché. D'abord, il n'y a qu'à me regarder, Et ça suffit pour que vous ayez quelqu'un qui peut brancher et qui branche. Mais si quelqu'un ne branche point en parole, vous voyez, là, l'action de l'esprit sera sur nos paroles. Combien c'est important de veiller sur nos paroles. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si je puis maîtriser ma langue, eh bien, le Seigneur me dit que je pourrais marcher vraiment vers la perfection. Il nous voit déjà parfaits, mais en même temps, nous marchons vers la perfection. C'est le sens du mot parfait dans le Nouveau Testament. En Christ, nous sommes déjà parfaits, mais cette perfection, elle s'opère par la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne pas broncher en parole. Nous pourrons tenir notre corps en bride. Et c'est le même enseignement que nous a donné le Seigneur Jésus dans Matthieu au chapitre 12. Je vous le cite en passant, mais je ne m'en vais pas m'allonger dans les citations, parce que si vous vouliez savoir combien de fois le mot langue revient dans l'Écriture, il revient près de 300 fois. Alors je ne vais pas vous citer les 300 passages, hein, qui nous parlent de la langue, puis on pourrait ajouter les paroles encore. Mais c'est un sujet capital. Mais prenons le chapitre 12 de Matthieu, au verset 34e, vous y aurez là une grande lumière. Il est dit ceci, verset 34, « Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ?» Pour qu'on puisse commencer à dire des bonnes choses, qu'est-ce qu'il faut que notre cœur connaisse ? Un changement. Il faut un cœur nouveau. Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, etc. Alors, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Nous étions des méchants, mais le Seigneur nous a sauvés. Et nous sommes devenus maintenant les siens. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, et c'est ça qui est capital. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de quoi ? De toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Étudiez cela à travers tout le Nouveau Testament et l'Ancien. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et c'est vrai, vous voyez, quand on commence à raconter des mensonges, pour se mettre en avant. Prenez l'exemple de cet homme qui vient dire à David, pour se mettre en avant, « Tu sais, je reviens du mont Gilboa, j'ai vu Saül, qui est ton ennemi, le roi d'Israël, je l'ai vu dans l'angoisse, et puis il m'a demandé de le tuer pour ne pas tomber entre les mains des incirconcis, et je l'ai frappé, et je t'apporte, les objets qui étaient sur sa dépouille. » Alors, il croit faire plaisir à David en disant cela, et il pense que David le nommera peut-être à un poste assez élevé dans le royaume dont il va devenir le chef. Et qu'est-ce que David lui dit ? Comment as-tu osé mettre la main sur l'oint du Seigneur ? Je te prends par tes propres paroles. Et ils l'ont taillé en pierre. Hein ? Par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des gens, et ça j'en ai fait l'expérience dans mon ministère, qui venaient vers moi au refuge à Nice et qui me disaient, vous savez, le Seigneur m'a montré que je ne devais pas rester à travailler ici au refuge, mais il m'a montré que j'étais fait pour une autre région. Alors, je voulais vous le dire, quand on me dit « le Seigneur m'a montré », vous croyez que je vais lui dire « mais mon cher ami, mais tu te trompes, mais non, tu es tellement indispensable ici ». merci. On a tellement besoin de toi. C'est ce qu'on voulait me faire dire. N'en me fera pas dire des choses. Parce qu'il y a un verset qui m'a dirigé. Ma langue ne s'est pas flattée. Car si je flattais, le Seigneur me retrancherait. Si je vous dis une parole, c'est parce qu'elle est vraie. Et c'est pas d'une flatterie. Et vous pouvez la croire. Pas parce que moi je suis un homme exceptionnel, mais parce que je crains Dieu, et que Dieu est un Dieu de vérité, et que je ne puis pas vous mentir. Mais si vous me dites que le Seigneur vous a montré cela, alors je dis, eh bien, faites ce que le Seigneur vous a montré. Mais n'essayez pas de me prendre en me disant, le Seigneur m'a dit. Parce que j'ai dit, alors si le Seigneur t'a dit cela, c'est très bien, moi je prendrai mes dispositions. Deux jours après, c'est la femme qui vient en pleurant, en me disant, mais c'était pas cela, on aurait voulu que vous nous disiez que on était au fond indispensable. Faut pas me dire, le Seigneur m'a dit que je fais partie. Alors c'est pas la femme qui va m'influencer, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Mais quand on est de connivence ensemble, ça marche pas. Vous savez très bien que Ananias a menti. Mais quand Saphira est venue, et que Pierre lui a posé la même question, elle lui a dit, combien avez-vous vendu ce champ? Elle dit les mêmes paroles que son mari, dont il s'était mis d'accord. Alors, Pierre lui dit, comme ton mari vient d'être emporté, toi aussi, ces jeunes hommes qui viennent de l'enterrer t'emporteront aussi. J'ai dit, et je vous le dis, soyez d'accord, mari et femme, soyez d'accord entre vous, ne faites rien individuellement, vous êtes ensemble, Dieu vous a mis ensemble, vous êtes complémentaires, c'est une complémentarité réciproque le mariage, hein. Alors, souvenez-vous de cela, mais pour le bien et non pas pour le mal, comprenez-vous? Parce que si votre mari vous dit quelque chose de faux, et c'est pas parce que vous êtes soumis que vous devez le laisser faire. Vous êtes là pour être l'aide qui lui correspond. Mais il y aura la manière de l'aider. Il y aura la manière de l'influencer par votre grâce, par votre amour, par votre patience. Laissez-vous enseigner par la parole de Dieu. Mais vous voyez, c'est par tes paroles que tu seras jugé mort. Pas avec T, mais avec S. Vous voyez que c'est quand même utile l'orthographe. Vous avez déjà vu un cheval qui a un cadavre à travers la bouche? Il a un mort. Non, c'est un S. Alors, vous voyez, c'est quand même important de savoir l'orthographe. Alors, si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Vous êtes d'accord? Oui, si vous n'avez pas peur de tenir les rênes. Parce qu'il y en a aussi qui ont peur, même sur le cheval. Il faut dominer la bête, ce que nous disons souvent dans les camps à Anaïm, hein. Eh bien, que le Seigneur vous donne ces exemples. Vous allez les comprendre, vous allez relire cela. Puis c'est vrai que vous seriez capable donc de conduire le cheval. Eh bien, si vous ne bronchez point en parole, ça sera un homme parfait capable de tenir son corps en bride, comme on peut tenir un cheval. Puis il y a un autre exemple qui est tout aussi simple, hein. L'exemple du bateau. Verset 4. Voici les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux. C'était encore les voiles, hein, de ce temps-là, mais c'était déjà des grands navires. Eh bien, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré de Josaphat. Oui, du pilote ici, hein, au gré du pilote. De même, la langue est un petit mot, c'est vrai, c'est une langue de bœuf. Une langue humaine, c'est un peu plus petit que la langue de bœuf. C'est un petit monde, et elle se vante de grandes choses. C'est tellement vrai. On aime exagérer, mais c'est une forme de mensonge, l'exagération. J'ai dit que le mensonge avait au moins 7 filles, et tout au féminin. Alors, mais oui, à l'exagération, puis tant d'autres choses, mais chacun peut trouver. La langue se vante de grandes choses. Voyez, un petit feu peut embraser une grande forêt. Pourquoi est-ce qu'on interdit de fumer, selon les lois du Québec, dans un camp comme celui-là? Ben, c'est que un petit feu, qu'est-ce que c'est un petit feu? Une cigarette? Un tout petit feu? C'est un petit feu. Ça tombe par là. Et comme c'est des cèdres, on nous a dit déjà que de Magog, ou d'ici à Magog, et de Magog à Georgeville, tout brûlerait. Et moi qui viens de ces régions du midi de la France, j'ai vu des feux de forêt épouvantables où est ma fille aînée, Hélène, qui travaille à l'eau vive pour le Seigneur, ben malgré que ça s'appelle l'eau vive, ils étaient environnés par le feu et en prière, là, à l'eau vive, pour que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur est intervenu. Mais quand le Mistral, ce qu'on appelle le Mistral là-bas, le vent souffle, hein, eh bien, c'est des domaines incroyables qui flambent. Et pour quelle raison? Une négligence, une cigarette, ou autre chose, un tout petit feu. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, ça. Une toute petite chose peut avoir de graves conséquences. Vous l'avez compris. Eh bien, la langue aussi est un feu. Et même, c'est le monde de l'iniquité. J'ai pas besoin de le chercher ailleurs. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La gêne, c'est ce feu justement qu'on entretient sans cesse dans cette vallée, et on l'apprenait, parce que tout le monde connaissait cette vallée, on l'apprenait pour montrer que c'est un feu qui ne s'éteint pas, hein, parce que les ordures, il faut les brûler toujours. Hein. Mais il faut veiller dessus. Mais là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Toute espèce de bête et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, sont domptés. Voilà encore un autre exemple qui est à votre portée. Vous allez aux eaux de Granby ou que sais-je, vous avez déjà vu des cirques où vous avez vu des gens qui savaient dompter des animaux féroces. Ils ont été domptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et là, je pourrais vous citer une foule de passages, à vous de les chercher, mais qui montrent qu'avec la langue, on peut tuer quelqu'un. On tue sa réputation, on médit sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est médire? Qu'est-ce que ça veut dire, médire? C'est dire peut-être même des choses vraies, mais en l'absence de la personne même. Et c'est ça qu'on ne doit pas faire. Elle n'est pas là pour se défendre. Alors que Dieu nous garde de la médisance. C'est pas nécessairement la calomnie. Mais, alors, la calomnie, ça va plus loin que la médisance. Parce qu'on dit des choses fausses. Parce qu'on veut détruire quelqu'un. Et alors, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Même si c'est faux. On dit toujours, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si on a dit cela, c'est bien qu'il y avait un petit quelque chose. Puis ce petit quelque chose, ça devient une montagne, finalement. Et on a brisé la réputation de quelqu'un, et peut-être on a conduit cette personne à un tel découragement qu'elle se suicide. Et nous sommes les premiers criminels. Voilà. Où l'on peut aller avec la langue. C'est un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Vous voyez, vous avez là un instrument qui peut être en bénédiction, mais qui peut être aussi en malédiction. Lisez le psaume 139, où vous voyez que Dieu connaît nos pensées, que la parole n'est pas encore sur notre langue, qu'il la connaît déjà tout entière. Et puis reprenez Ésaïe 6, et vous verrez qu'Ésaïe, ce saint prophète, quand il s'est trouvé dans la présence de la gloire, la première conviction de péché qu'il a eue, c'est le péché de ses lèvres. Il dit, purifie-moi du péché de mes lèvres. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Lisez le chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, et vous verrez que c'est vrai qu'il faut nous contrôler, même dans ces moments où on peut se laisser aller à plaisanter, eh bien, on est souvent en danger parce que on dit des choses équivoques, et souvent des choses équivoques qui ne sont pas pures. et on souille l'âme de ceux qui nous écoutent. On leur fait penser par nos paroles à des choses mauvaises et ça ne les aide pas. Alors que Dieu nous garde dans nos paroles. Parce qu'il y a des moments, alors c'est la louange, nous bénissons le Père, et puis après, eh bien, nous disons du mal des hommes qui ont été faits à l'image du Seigneur, n'est-ce pas? Puisque nous bénissons Dieu le Père, que nous reconnaissons comme créateur, nous devons aussi aimer ces créatures. En touchant ces créatures, nous touchons le créateur. Comprenez-vous? En aimant votre prochain, vous aimez qui? Le Père, celui qui a fait votre prochain. Oh, voyez combien c'est simple. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Puis alors, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Mais non. Ou bien c'est eau potable, ou bien c'est non potable, mais c'est pas la même source. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas de complication là. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Vous avez déjà vu ça? Ah, je vois un figuier, je vais aller chercher des olives. Je suis insensé. Je sais très bien qu'un figuier ne produit pas des olives. Et puis, une vigne. Oh, cette vigne, j'ai le goût de figue. Alors, je vais chercher des figues dans une vigne. Il est possible que dans la vigne, il y ait un figuier. Ça, c'est une autre affaire. Hein. La vigne et le figuier sont souvent ensemble. Mais les figues, je les trouverai sur le figuier et non pas au cep ou au sarment de la vigne. De l'eau douce non plus ne peut pas produire de l'eau amère ou de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, je dirais aussi, mes frères et sœurs, qu'on peut appliquer cela aux dons. Vous avez des dons différents. Tu es un figuier. C'est vrai? Et puis, tu as un caractère très doux, enfin, il y a la douceur de la figue chez toi. Eh bien, je m'en réjouis. Mais ne pense pas, oh, moi, je suis figuier, j'aimerais mieux être olivier. Réjouis-toi qu'il y ait des oliviers qui produisent des olives. Mais c'est des choses que toi, tu ne peux pas produire. Alors, accepte-le. Que tel frère ait tel don, alléluia, j'en bénéficie. Mais je ne m'en vais pas le jalouser. Je ne demande pas à un figuier de produire du raisin ou au raisin de produire des figues. Chacun de vous, vous êtes comme un arbre. On a fait une méditation sur les arbres à Hol avec nos amis. Eh bien, nous avons vu cela. Acceptez ce que vous êtes et louez le Seigneur pour ce que vous êtes. Et maintenant, puisque vous êtes précieux à mon cœur, faisons le changement. Hein. Encore quelques minutes pour la fin du chapitre. Vous voulez vous lever peut-être un instant? Changer de position? Et vous voyez, vous aurez quand même à manger. Hein. L'électricité marche. Une bonne nouvelle. Moi, j'avais pensé qu'on serait appelé à jeûner, peut-être.
Tu vas finir avec ça, je vois.
Alors, nous arrivons au verset 13. Hein? La sagesse terrestre et la sagesse d'ange. Parce que dans le chapitre 1er, il a dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que c'est à lui qu'il faut demander. Il donne à tous libéralement et il ne fait pas de reproche. C'est merveilleux. Vous pouvez tout demander. Demandez la sagesse. Mais demandez-la directement à Dieu. N'est-ce pas? C'est à lui qu'il faut aller. C'est lui qui donne à tous. Puis il ne fait pas de reproche. Puis vous ne l'importunez jamais. Ne pensez pas que vous importunez Dieu. Dieu ne se laisse pas importuner. Il est toujours là, toujours ouvert, toujours prêt à vous accueillir. C'est cela qui est merveilleux. Tandis que nous, on a notre horaire, on a notre carnet, on ne peut pas vous recevoir avant tant de jours, etc. C'est pas cela. Eh bien, que Dieu nous donne d'être davantage disponible pour le moment présent et pour les âmes qui sont ici. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? On a dit, en ta lumière, nous verrons la lumière. C'est par un verset biblique que je vais répondre et non pas par le dictionnaire. Dans le chapitre 28 de Job, il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est cela la sagesse. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Puis les gens, ils savent pas même se retirer du mal. Ils courent vers le mal, puis après ils se plaignent. Et pourtant, ils savent que c'est mal. Mais ils disent, ne nous induis pas dans la tentation. Mais ils courent vers la tentation. Mais ils disent, moi je m'en vais m'arrêter, il y a des stops. Oui, ils sont passés plus loin. Il n'y a pas de miracle. Si vous courez vers la tentation, vous tomberez. La convoitise ayant conçu enfante le péché étant consommé produit la mort. Nous l'avons lu là. Alors, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Bien, c'est celui qui a la crainte de Dieu, qui ne prend pas à Dieu pour n'importe qui, mais qui dit Dieu est Dieu, et j'y crois, et je le prends au sérieux. Et puis, l'intelligence, l'apôtre Paul dit, personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Quand on ne cherche pas Dieu, c'est qu'on n'est pas intelligent. C'est de la bêtise. Alors, Seigneur, je te demande que j'ai vraiment cette intelligence de rechercher toi. Alors qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Vous dites que vous êtes chrétien, mais votre conduite doit correspondre au nom de celui que vous portez, au nom que vous portez, le nom de Jésus. Vous êtes disciple du Christ. Et alors, montrez une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. De quelle douceur est-il question? De la douceur de Christ. Il était doux et de cœur. C'est lui qui était sage. Il était le seul sage. Alors, c'est sa douceur à lui. Et nous devons manifester ce fruit qui est un fruit de l'esprit. C'est pas notre douceur naturelle. C'est une douceur et qui nous domine, qui vient d'en haut. Parce que je peux être dur de nature. Je suis né dur. Mon arrière-grand-mère était très dure. Et puis, les autres encore, c'était plus encore de la pierre, peut-être. Alors moi, je suis dur. C'est de la faute de ma grand-mère. Alors on a les péchés des pères, etc. Puis on vous fait confesser toutes sortes de choses. On vous culpabilise avec tous vos ancêtres. Alors que vous devriez être libéré. Vous êtes mort. Alors, qu'est-ce que les ancêtres ont à faire là-dedans? Vous êtes mort. C'est plus votre hérédité. C'est une nouvelle création, comprenez-vous? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Qui c'est la vérité? C'est Jésus. Est-ce qu'il avait un zèle amer? Non. Il était zélé pour son Père. Et nous devons avoir le zèle que procure l'évangile de la paix, un zèle pour apporter la paix et non pas la dispute partout où nous allons. Parce que nous mentons contre la vérité, mentir contre la vérité, c'est mentir contre Jésus qui a dit « Je suis la vérité ». Cette sagesse, donc, que vous prétendez avoir, parce que vous voulez être docteur, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, parce que ce qui vient d'en haut, c'est des dons parfaits. Vous l'avez lu dans le chapitre 1er. Tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Cette sagesse n'est point celle d'en haut, mais elle est terrestre. Et vous savez où va le monde avec sa sagesse, hein? La sagesse terrestre, où va-t-elle conduire le monde? Elle est terrestre, elle est charnelle, c'est de plus en plus charnel, tout ce qu'on voit autour de nous, hein? Sensuelle, c'est le sexe partout, avec toutes ses déviations, et le doigt de Dieu avec le sida. Alors, mais on dit, bien, on fait des affaires avec les condoms. Moi, j'ai mis de grands capitaux dans les fabriques de condoms, parce que ça va marcher. Rendez-vous compte. Ça va marcher, les condoms. Il y en a qui ont fait fortune avec d'autres choses. Alors, maintenant, puisque on va les distribuer dans les écoles, misère. Quelle affreuse! Vous rendez-vous compte? Puis, les homosexuels nous disent, j'ai pourtant beaucoup de compassion pour eux, je les juge pas, mais je peux pas dire qu'ils font bien, que c'est quelque chose de naturel. Eh bien, ils disent, de toute façon, faut mourir. Alors qu'on meurt du sida. Ben, mourir du sida. Mais c'est diabolique. Qui est-ce qui est meurtrier et menteur dès le commencement? Jésus l'a dit, c'est Satan. Et il voudrait détruire les hommes. Et s'il peut les détruire, il le fait. Satan est un meurtrier et un menteur. Et le signe du diabolisme, il y en a qui n'y croient pas, hein, mais le signe du diabolisme, c'est le mensonge et le meurtre. Et ceux qui ont vécu comme moi un petit peu le temps d'Hitler, eh bien l'Allemagne était dominée par des gens qui mentaient et qui tuaient. Il y a tous les camps de concentration qu'on a appelé l'Holocauste, le fameux Shoah, mais pas seulement ça. C'est diabolique, c'était diabolique. Et Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable. Car là où il y a un zèle amer et un esprit disputé, ça c'est aussi dans nos assemblées, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Vous pouvez être sûr que les gens qui amènent du désordre dans l'assemblée, eh bien, il y a des mauvaises actions derrière tout ça. La sagesse d'en haut. Alors, vous allez méditer là-dessus, j'ai pas besoin de m'allonger. La sagesse d'en haut, qui vient donc de Dieu, elle est premièrement pure. C'est-à-dire, c'est quelque chose de total, c'est pas partagé. Elle est pure, il n'y a rien de souillé. C'est quelque chose qui appartient entièrement au Seigneur. C'est un cœur pur, c'est un cœur entièrement consacré à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de mauvaises pensées, mais on se laisse purifier, on se juge de nos pensées. Et alors, la pureté nous est donnée. Un regard pur, des paroles pures et qui ne souillent pas. Ensuite, elle est pacifique. Quand on est vraiment dans la sagesse du Christ, on aime la paix. Et on apporte la paix. Parce qu'on a la paix avec Dieu d'abord. Elle est modérée. Et de ça, on en a besoin. Il y a tellement d'exagération. Ou bien on est tout pour ceci, ou bien tout pour cela. On n'a pas l'équilibre. Et quand on n'a pas l'équilibre, c'est qu'on n'est pas vraiment en Christ. Parce que le Christ, il vous donne l'équilibre en toute chose. Il y a des gens qui vous disent, ah, si tu veux être un bon chrétien, tu dois uniquement manger quoi? Végétarien. Ben, c'est une abomination de manger du cadavre. C'est une abomination d'être un cadavre. Mais de manger de la viande, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, soyez équilibrés. Si ça vous convient, le régime végétarien, bien, mangez, faites votre régime végétarien, mais ne l'imposez pas aux autres. Vous croyez que moi qui suis prédicateur et qui dois aller un peu dans le monde entier, eh bien, que je vais dire aux gens, vous savez, moi, hein, j'ai mon régime. Ou je pourrais le dire. Parce que, oui, il y a des choses qui ne conviennent pas très bien. Mais je ne dis pas, on rend grâce pour ce que Dieu met devant nous. Puis si on sait que ça ne convient pas tellement à notre régime, on en mange un peu moins. Et c'est pas un drame, parce que ça fait rentrer un petit peu la bedaine, si jamais elle venait. Alors, vous voyez, on peut tout prendre avec action de grâce. Puis on peut remercier aussi à la fin du repas, pas seulement au commencement, mais on remercie, parce qu'on rend grâce au début du repas, puis on se plaint de la nourriture après. Hein? C'est pour ça qu'au camp Mahanaïm, on aime rendre grâce aussi à la fin. Parce que, comme ça, on voit, puis comme ça, les gens peuvent se disperser, mais après qu'on ait encore rendu grâce pour leur repas. C'est pas pour mettre des coutumes, comprenez-vous, mais ça peut se faire aussi. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, la modération en toute chose, conciliante. Chercher à voir, mais ce que m'a dit l'autre, je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais au fond, est-ce que je peux pas arriver à être d'accord? Et on se parle. Puis tout à coup, on arrive à ce qu'on appelle tellement dans les médias un consensus. Hein? La sagesse est conciliante. On cherche à être d'accord. Mais pour être d'accord, il faut écouter l'autre. Il ne faut pas lui imposer d'abord nos idées, il faut écouter aussi ce qu'il dit. Puis alors, chacun va vers l'autre. Et il y a une conciliation. C'est ça la sagesse d'en haut. Et puis, elle est pleine de miséricorde. Parce que le Seigneur nous a fait miséricorde, on peut parler de miséricorde aux autres, de compassion et de bons fruits. Exempt de duplicité. Alors là, je suis très sévère et je dis pour moi-même, il faut qu'on soit franc, il faut qu'on soit droit, il faut qu'on vive dans la transparence. Et c'est beau des relations transparentes, vous ne trouvez pas? Un cœur ouvert. pour que vous sachiez bien ce qu'il dit, bien, c'est vrai, c'est ce qu'il est. On peut compter sur sa parole. Il n'y a pas de duplicité. J'essaie pas de vous avoir. Puis pourquoi est-ce que je vous aurais? C'est bien lourd. N'est-ce pas? On ne cherche pas d'avoir les gens. Mais on cherche que le Seigneur ait les gens. Que le Seigneur vous possède. Que le Seigneur vous aime. Vous êtes parce qu'il vous aime. Alors il n'y a pas de duplicité et il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie est bannie. Nous vivons dans la transparence et le fruit de la justice, eh bien, il est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Mais il faut qu'il y ait des autres, il faut le semer. Si vous ne semez pas le fruit de la justice, eh bien, vous n'aurez pas de récolte. Alors, soyons des semeurs et puis, si nous récoltons, donnons toute la gloire au Seigneur, c'est pas nous qui aurons fait germer, c'est le Seigneur. Dieu notre Père, avant de nous séparer, nous voulons encore te demander que tu prolonges toi-même dans chacun de nos cœurs la méditation de ta parole, et que ce soir ce ne soit plus nous qui parlions, mais que chacun puisse partager ce que tu as voulu lui montrer et lui dire aujourd'hui au sujet de la langue. Nous savons que par elle, nous pouvons te louer. Et tu nous dis encore, si quelqu'un aime la vie, et veut prolonger ses jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il fasse le bien et s'éloigne du mal. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, par la puissance de ton esprit, qui seul peut maîtriser notre langue et la lui donner une louange continue, mais une garde à l'entrée de nos lèvres, comme le dit le psalmiste, pour que nous soyons toujours conscients que par nos paroles, nous serons jugés aussi, condamnés ou justifiés. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit.